Mesdames, messieurs, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des Économistes. Je note que le début de la musique, au début de l'émission est de plus en plus courte. Donc, vous aurez reconnu de Verdi, Nabucco, le Vapanciero, les esclaves captifs à Babylone, sur le psaume 137 du Livre des Psaumes. Voilà, c'est une émission évidemment générique de la liberté. L'émission d'aujourd'hui a pour thème la démocratie entrera-t-elle par la fenêtre ? En l'occurrence, c'est la petite fenêtre des ordiphones. Et j'ai le plaisir d'en parler avec Alexandre Jardin, romancier, scénariste, réalisateur et aussi promoteur donc d'une application. Qui nous parlera de tout ça. Vous écoutez donc le Libre Journal des économistes, mais qui est aussi le Libre Journal des gueux. L'émission ultra néo turbo libéral sauvage de Radio Courtoisie. Et donc, j'avais eu le bonheur de vous recevoir en mai 2025 et nous avions parlé justement de votre livre Les gueux. Là, c'est un peu les gueux, le retour. ils reviennent et ils ne sont pas contents. Comment vont-ils faire pour reprendre le pouvoir?
Et ils sont en train de le faire.
Ils sont en train de le faire et vous nous expliquerez tout ça. Je vous présente quand même pour les quelques très très rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous collectionnez les succès littéraires, vous avez publié plus de 30 livres. Vous avez commencé par Bille en tête en 1985, alors que vous étiez très jeune. Et récemment, vous avez publié La femme qui inventa l'amour aux éditions Michel Lafon, ce qui a été l'occasion de vous entendre à de nombreuses reprises sur les ondes, ou via la fibre optique, d'ailleurs, parce que les ondes, il n'y a plus beaucoup de gens qui les utilisent, mais enfin voilà. Vous avez aussi écrit des livres pour les enfants. Vous êtes le cofondateur du programme Lire et faire lire, où 20 000 bénévoles font lire chaque année 750 000 enfants de France, de Suisse, du Québec et d'Acadie. Donc on peut dire la véritable francophonie, non pas l'organisation bureaucratique dont il faudra que je parle un jour d'ailleurs dans cette émission.
Celle qui marche.
Voilà, la
nôtre marche.
La francophonie qui marche, on va dire. Et puis comme je le disais, vous avez pris fait et cause pour un juste combat à travers un opuscule très stimulant qui s'intitule Les gueux, aux éditions Michel Lafon 2025, 48 pages, 4,90 €. On avait eu l'occasion d'en parler dans cette émission de mai 2025. Grosso modo, la conclusion à laquelle on arrivait, c'est que les pauvres étaient échec et mat, aussi bien côté automobile que côté logement, puisque l'État avait, à travers les zones à faible émission, les interdisait et dévalorisait leurs voitures. Je crois que vous aviez évalué à 65 milliards, c'est ça, le coût global, le vol que ça représentait de valeur pour les Français qui se retrouvaient avec des automobiles.
Destruction
de valeur pure. Vous n'aviez pas évalué, je ne sais pas à combien il faudrait l'évaluer, la destruction de valeur du DPE, donc le diagnostic de performance énergétique sur les appartements.
Ça, c'est de l'ordre de la folie.
Voilà, c'est ça. On va simplifier. On va simplifier comme ça, mais c'est voilà.
Et c'est d'autant plus impressionnant que ce sont des chiffres qui n'existent pas dans les études d'impact censées être à peu près sérieuses dans les textes de loi.
Oui, bien sûr.
Puisqu'on n'a pas mesuré tout ce que les Français perdaient là-dedans.
D'ailleurs, vous aviez parlé dans la dernière émission que vous étiez dans le bureau d'Agnès Pannier-Runacher, que vous lui aviez parlé de cette perte de valeur des automobiles et que vous vous étiez rendu compte immédiatement qu'elle ne s'était même pas souciée de la chose. Qu'elle a appelé devant vous, je ne sais qui, mais enfin bref, elle ne s'était jamais posé la question de cette perte de valeur sèche. Le diagnostic de performance énergétique, c'est pire que tout. Enfin, c'est quelque chose. Parce que une voiture se dévalorise par nature. Alors évidemment, comme les Français sont pauvres, ils sont obligés de garder leur voiture 20, 25 ans. Puisque les Français ont été appauvris, on va dire, par le fisc et par les lois. Pour ce qui est des appartements, c'est beaucoup plus grave, puisque c'est les économies de toute une vie qui se retrouvent là-dedans. Enfin, donc c'est des sommes énormes qui sont, comme vous dites, sans doute inévaluable. En tout cas, il faudrait se poser la question précisément de l'énorme perte de valeur que ça représente, et puis aussi de la perte de liberté des Français, disons. Je milite souvent dans cette émission pour la disparition pure et simple de la notion de marchand de sommeil. Si un clochard sent que pour 12 euros la nuit sous un escalier, il sera plus heureux, il pourra manger son sandwich tranquille sans se faire agresser, etc. C'est pas à nous d'intervenir dans cette relation inter-individuelle et de dire non... vous êtes obligé d'avoir double vitrage, les WC intégrés, machin, etc. Mais je suis pour, j'adore le fait que les doubles vitrages existent. La seule chose, c'est que à partir du moment où tout le monde ne va pas se les payer, et puis les Français ont été appauvris très largement. Voilà, donc c'est cette perte de valeur et ces idées de qualité minimum de logement, etc., doivent absolument sauter, et vous avez peut-être une solution à nous proposer aujourd'hui.
On a beaucoup peut-être. De solutions,
oui.
Mais l'originalité de notre mouvement, c'est qu'on évite d'avoir des opinions.
Très bien.
On pose des questions.
D'accord, alors je ne peux pas en dire autant.
Bon. Mais on pose des questions et on demande aux Français d'y répondre avec une application référendaire qui sont en train de télécharger à tout va. Il y a 8 jours, on avait dépassé 120 000 téléchargements. Le week-end dernier, il y a eu à nouveau un rebond. Je pense qu'à la fin de la semaine, on sera peut-être pas loin des 200 000. C'est monstrueux. Ça veut dire que les gens veulent reprendre le contrôle de leur vie.
Très bien.
Ils veulent peser dans la décision publique,
oui.
Ne plus être dépossédés de leur puissance de citoyen. En fait, on est en train d'accompagner le réveil de la valeur du citoyen. Qui reprend conscience de sa puissance si il agit collectivement. Et cette application, elle est gratuite. Vous allez la télécharger, soit iPhone, soit Google. Et vous tapez référendum citoyen.
Android, donc, oui.
Android.
Oui.
Et vous téléchargez. Et oui. Vous avez 5 premières questions qui sont extrêmement pratiques et qui sont présentées par des gens qui sont des costauds du sujet.
Ah oui.
Et une des questions les plus qui touche le plus les Français, et ils votent massivement, c'est la question de la facture d'électricité. Et André Merlin, qui est le fondateur de la société qui transporte l'électricité en France, RTE, propose un plan qui aboutit à une baisse de 25%. Mais il y a des choix à faire, des choix entre citoyens. Est-ce qu'on les fait? Et est-ce qu'on est prêt à faire ces choix-là pour que notre facture baisse de 25%? Ou est-ce qu'on considère que c'est mieux de rester au niveau actuel et que c'est mieux d'appliquer le dernier décret sur l'énergie qui va encore doubler notre facture d'électricité?
Qui va faire doubler la facture d'électricité actuelle?
Au cours des 10 prochaines années.
D'accord.
Avec un système de subvention monstrueux annuel pour des éoliennes et du photovoltaïque dont nous n'avons pas besoin puisque nous sommes déjà excédentaires en production de 20% que la France est le champion toute catégorie des prix à zéro puisqu'on on produit tellement que ça n'a plus de valeur lorsqu'on l'exporte.
Oui, d'accord, oui.
Donc, est-ce qu'on arrête la folie? Vous pouvez voter, vous téléchargez, et vous répondez à cette question. Les autres questions touchent la question de la responsabilité des juges. Est-ce qu'on reste dans le système actuel ou est-ce qu'on crée une responsabilité personnelle en cas de faute lourde jugée par des non-magistrats?
Oui.
Et là, c'est Georges Fenech, ancien magistrat, qui avec tout un groupe de magistrats, propose une solution assez simple, le vote pour 5 ans au suffrage universel d'une cour de gens qui ne sont pas magistrats et qui seront en charge du jugement des juges. Est-ce que, au fond, la population reprend le contrôle ou est-ce qu'elle accepte qu'on est...
Le syndicat de la magistrature avec son mur des cons.
Voilà. Non, mais où est-ce qu'on accepte?
Non, bien sûr. L'irresponsabilité des juges qu'on a vu récemment, d'ailleurs. On a vu récemment
Donc là, les Français votent massivement, ils prennent position. Et à chaque fois, on a quelqu'un. La sécurité sociale est en déficit. Les Français ne le savent pas parce que la classe politique n'en parle pas. Mais elle est en train de mourir. On est à peu près moins 24, moins 25 milliards par an de déficit. Ça fait moins 100 milliards tous les 4 ans.
Bien sûr, oui.
Un enfant de 4 ans est capable de comprendre que nos enfants n'en auront pas.
D'accord. Bon, donc, c'est peut-être une bonne chose, non? Enfin, je ne sais pas. C'était le sujet de mon émission avec Patrick de Casanova il y a deux mois.
Il y a un plan qui est proposé. Vote oui ou non.
Oui.
Avec un retour à l'équilibre qui est très remarquablement intelligent, qui est proposé par l'Institut de Santé, par un économiste qui s'appelle Frédéric Bizard. Bon. Or, les gens, ce qui est passionnant, c'est que quand ils téléchargent l'application,
oui.
ils vont se renseigner. Vous pouvez cliquer sur l'application, vous tombez sur un site où il y a tous les arguments pour et les arguments contre.
D'accord.
Car il est bien évident qu'aucune décision ne comporte que des avantages.
Ça dépend. Enfin, ça arrive aussi, mais enfin, oui, d'accord. Oui,
sur des questions complexes.
Oui. Pas forcément pour ceux qui les promeuvent, disons.
Oui.
Évidemment, il peut y avoir des perdants.
Ensuite, il y a une autre question qui est proposée par le contribuable associé, par Benoît Perrin, qui est un choix proposé aux Français de baisser ou non de 20 centimes les prix à la pompe si on suspend au moins le temps que les marchés pétroliers se calment.
Oui.
Est-ce qu'on suspend ou non les certificats d'économie d'énergie?
D'accord, oui.
Alors, on explique ce que c'est,
ouais.
Les gens décident, et là encore, massivement, est-ce qu'on dit que le pouvoir d'achat populaire, qui est trop entamé par le niveau actuel des prix à la pompe, est-ce qu'on soulage les gens? 20 centimes, ça fait que ça rend 10 euros sur un plein.
Oui, bien sûr. Oui.
Or, il y a des millions de Français qui sont à 10 euros près.
Bien sûr, oui, évidemment.
Et donc, pour nous, c'est essentiel que les Français disent oui. Non.
Oui.
Ou blanc.
Oui, oui.
Et puis les ZFE, enfin.
D'accord. Oui,
et vous m'avez dit que
oui, alors que j'ai été voir quand même. J'ai été voir, je ne suis pas très technophile, mais je me suis dit quand même que pour cette émission, comme ça faisait 4 semaines que l'appli était en ligne, voilà, donc je suis allé voter contre les ZFE, très simplement. Et je dois dire que c'est un petit bijou. Je ne suis pas fan de l'interface, mais en tout cas, techniquement, le truc fonctionne à merveille. C'est très très simple. C'est vraiment, et puis on le sent. Que le vote est sécurisé, qu'il est anonyme, qu'on a... ensuite, on peut en faire la publicité, comme je viens de le faire, disons, mais c'est librement. Et on a un petit certificat même de vérification. On voit que le truc part dans le chaînage de blocs, le chaînage de blocs, comme on dit sur Radio Courtoisie, mais la blockchain.
Voilà, le chaînage de blocs.
Qui est plus connu, voilà. Et donc, voilà, on a un petit code certifiant, disons, qu'on a bien voté. Donc, on sait que c'est une personne ne peut voter qu'une seule fois. Alors uniquement avec les passeports aujourd'hui. Enfin, vous allez nous raconter ça dans un instant. On va peut-être juste pour en être débarrassé, traiter les actualités libérales et les actualités aussi. Les actualités nous ramèneront très très vite, je crois, à notre sujet. Alors, actualité libérale, il n'y a pas d'école du libéralisme pendant l'été. En revanche, il y a à Aix-en-Provence deux rendez-vous. Du 20 au 22 juillet, il y a le campus du Laissez-nous faire. Comme ça, les gens ne se tromperont pas sur l'orthographe de laisser. Laissez-nous faire avec un Z, bien sûr. Laissez-nous faire.fr, c'est autour d'Alain Madelin, il y aura plein que du beau monde, Sophie de Menton, Pierre Gattaz, des gens que j'ai l'habitude d'inviter dans mon émission comme Olivier Babot, Victor Fouquet, François Fachini, etc. Et puis il y a aussi l'université d'été IREF-IES qui aura lieu du 23 au 25 juillet, donc juste après, hein, vous pouvez même faire les deux, avec le thème Art et Liberté. Ça se passe à l'université de droit, d'économie et des sciences, 3 avenue Robert Schuman, et vous pouvez vous inscrire sur ireffeurope.org. Vous allez sur nos actions, université d'été, inscription, voilà. Ireffeurope, en un seul mot, ireffeurope.org. Voilà, et la précédente, campus du Laissez-nous faire, c'était donc laissez-nous-faire.fr. Voilà, actualité, l'actualité peut-être rapidement, j'ai halluciné peut-être vous aussi sur le fait que des oukas comme ça, l'interdiction de la vente d'alcool du vendredi midi au dimanche 18h, il faisait très chaud, etc. Mais je veux dire, les gars se permettent tout, ça y est.
Tout.
Ils considèrent qu'ils ont tous les pouvoirs, que c'est eux qui décident. Enfin, je veux dire, c'est pas bon de boire quand il fait chaud, mais de toute façon, c'est jamais bon de boire, ils devraient l'interdire tout le temps. Enfin, je veux dire, on sait pas pourquoi se limiter à la canicule. Bon.
Donc, il y a un problème de démocratie.
Tout à fait. Non, c'est ça.
Il y a une crise de démocratie. Et c'est pour ça.
C'est de plus en plus patente.
Et qui en roue libre, on a des technocraties qui sont en train de prendre possession de nos vies. Donc, ça veut dire que pour soigner un problème de démocratie, il faut plus de démocratie. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec cette application. Et si l'application Référendum Citoyen, elle est numéro 1 depuis 3 semaines des téléchargements sur Apple Store, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, on aura le bol d'être virés de leur vie.
C'est numéro 1 des téléchargements, d'accord.
Donc c'est vraiment... Ça dit quelque chose de très profond.
Oui, bien sûr.
Parce que nous sommes une asso 1901, nous n'avons aucun moyen considérable.
Bien sûr, oui.
Donc, on accompagne ça, aujourd'hui, je ne peux pas faire 100 mètres dans la rue sans que quelqu'un mette sa voiture en double fil, vienne dire merci.
Ah, d'accord.
D'ailleurs, très souvent, sur les réseaux, je mets des vidéos des gens. Je les interviewe. Pourquoi vous dites merci? Donc, il y a une vague qui est en train de se lever.
Oui, oui.
Et puis, quand on sera 1 million...
Oui, alors c'est ça, c'est vivement qu'on soit 1 million.
Enfin, vivement qu'on soit 1 million. Parce qu'à ce moment-là, comme on entre dans une année présidentielle...
Électorale, oui, importante.
Il est évident que si une masse considérable de Français s'exprime directement, l'ensemble du système va devoir se positionner par rapport à ce que diront les gens.
Oui, oui. Oui.
Et non pas par rapport à ce que diront de pseudo-experts ou ah oui. Actuellement, la vie politique, c'est la vie des politiques. On voudrait que ce soit...
Oui, alors c'est ça, c'est on vote pour un tyran tous les... Enfin, on vote pour un tyran, pour en tout cas, quelqu'un qui nous paraît gentil tous les 5 ans, mais comme on lui signe un chèque en blanc très vite, il y a son hubris qui prend le dessus, disons, et puis quand bien même il serait gentil, ça suffit pas toujours, disons, il faut c'est pour ça d'ailleurs qu'en Suisse, il y a des référendums révocatoires, abrogatifs, suspensifs, etc. C'est parce que
quand ça se passe pas bien, voilà. Ce sont des gens civilisés, ce sont des démocrates.
Voilà, et donc quand on n'est plus d'accord avec les représentants, on reprend la main momentanément. Et donc
si on n'est pas 1 million, mais 2, mais 3, mais 4,
rêvons un peu, oui, bien sûr.
Mais rêvons un peu.
Non, mais c'est vous qui savez. C'est vous
je ne savais pas qu'on allait se retrouver quasiment 200 000 au bout de 3 semaines. Or, actuellement, est-ce que vous voyez beaucoup de mouvements politiques qui ont bougé 200 000 personnes?
Oh, je ne sais même pas d'ailleurs si les partis. Je crois que
donc le mouvement...
les partis avec le plus de membres en France ont rarement dépassé les 100 000.
Ça veut dire qu'on est en train de créer un mouvement qui est bien plus considérable que le système des partis.
Ah oui.
Avec un peuple qui reprend très très gentiment, sans brûler les ronds-points, mais qui est en train de reprendre l'outil d'expression.
Oui, bien sûr.
Et à la rentrée, on vient d'abord, mi-juillet, on va annoncer les conditions d'ouverture de notre outil.
Oui.
Parce que pour l'instant, c'est nous qui posons les questions, mais il n'y a aucune raison que ça dure. Donc on va annoncer des règles pour que l'ensemble de la société puisse venir et que tous les thèmes réellement populaires, tout ce que la nation, au fond, a besoin de dire.
Mais alors, la question que je me pose, on reviendra aux actualités un peu plus tard, mais la question que je me pose, c'est il y a cette notion très importante de subsidiarité et de subsidiarité horizontale, comme l'appelle le professeur et maître Jean-Philippe Feldman, qui est aussi avocat. La subsidiarité horizontale, c'est le fait de considérer que, voilà, que l'État ou la chose publique ou la commune n'a pas à s'occuper de tout.
Oui.
Par exemple, si je bois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si des initiants proposent le fait d'interdire l'alcool sur la totalité du territoire, et qu'il y a 4 millions de gens qui votent pour l'interdiction de l'alcool sur la totalité du territoire. Qu'est-ce qui se passe? On arrête tous de boire?
C'est assez théorique.
Évidemment, la question est théorique, bien sûr. Dans la vraie réalité,
les gens parlent de pompe à essence, de pouvoir d'achat, de salaire net.
Oui.
La différence entre le salaire brut et le salaire net. Est-ce qu'on maintient actuellement?
Oui.
Parce que
Je pense qu'avec l'inculture dans laquelle notre peuple a été maintenu et même souvent plongé même en matière politique, alors peut-être qu'avec l'application dont vous parlez, les choses vont évoluer rapidement et dans le bon sens, mais il y a beaucoup de gens qui sont favorables, d'où le succès d'un Mélenchon, il y a beaucoup de gens qui sont favorables au fait qu'on taxe plus les riches. Et qu'on fasse comme si on arrêtait de taxer les pauvres, etc. Enfin, ce qui est une spoliation pure et simple. Bien évidemment, l'argent des riches ne nous appartient pas. Il n'appartient pas non plus au vote.
Non.
Il n'appartient pas, c'est pas à la démocratie de décider si Bernard Arnault est assez riche, trop riche, moyennement riche. Normalement, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que nous sommes dans cette émission, moi-même et souvent mes invités, nos grands défenseurs de l'impôt proportionnel. Comme ça, tout le monde ayant le même pourcentage de son revenu taxé, Bon, ben, si vous votez pour une baisse, ben, vous, vous en profitez vous-même. Si vous votez pour une hausse, vous en souffrez vous-même. Voilà. Et donc, vous avez quelque chose qui est justement, qui vous garantit un petit peu, pas complètement d'ailleurs, mais qui vous garantit
un petit peu. Et bien, votre idée avec 4 millions de gens
a
un autre poids.
Certes.
Donc, j'invite tous ceux qui ont de vraies convictions.
J'en ai beaucoup.
À proposer, à rentrer dans ce processus, parce que au fond, on se rend compte, quand on regarde le fonctionnement des Suisses, alors on dit oui, c'est des Suisses. Non, d'abord, les Suisses ont une proportion...
La mauvaise raison.
Non, mais ils ont surtout une énorme proportion d'immigration.
Ouais, oui.
Comment ils digèrent tout ça par la démocratie?
Ouais, oui.
Parce que les campagnes référendaires créent des nations. Parce qu'au fond,
tout à fait,
la conversation élève le niveau de conscience, le niveau d'interrogation, et donc si...
Et de pacification, hein, c'est-à-dire les relations sont pacifiées.
Oui, voilà, on s'affronte à la régulière,
voilà, c'est ça.
Dans des débats, c'est dans la presse, sur les réseaux, et puis on tranche.
Oui.
Et on tranche en démocrate. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de faire basculer, et si nous sommes des millions, je dis bien des millions...
Alors, amis auditeurs, j'espère que vous entendez le message.
Oui. Hein,
soyez nombreux, voilà, que vous ayez un iPhone ou
un
Samsung ou un Android.
On sera suffisamment puissant pour, à Noël, d'abord imposer à l'ensemble des candidats d'arrêter le principe de virer le peuple le soir de l'élection.
Voilà, c'est clair.
Est-ce que vous considérez comme normal que le droit référendaire, je veux dire les Suisses l'ont, il y a plein de peuples qui l'ont. Est-ce qu'on est tous virés le 2 mai?
Oui, bien sûr. Oui.
Pour 5 ans.
Au soir, voilà, c'est ça.
Oui, tout à coup. Le 2 mai au soir, est-ce qu'on est tous virés? Ou est-ce qu'on on conserve une dignité?
Voilà, d'accord. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on conserve une dignité.
C'est pas mal la dignité.
Non, tout à fait.
Donc,
Et pourquoi pas installer d'ailleurs à l'intérieur de notre système, de nos institutions, ces votations, élections, référendums, etc.
Qu'est-ce qu'on voit chez les Helvètes?
Oui.
Le Parlement fédéral vote 96% des lois de manière classique.
Oui, c'est ça,
C'est à peu près 4-5% l'intervention référendaire.
Oui.
Mais sauf que les 95% de lois, ils les votent en écoutant, puisqu'ils peuvent être invalidés. Donc les ZFE n'ont jamais vu le jour en Suisse.
Bien sûr, oui, tout à fait. Évidemment. Ils savent que justement, il y a ces référendums suspensifs, abrogatoires, etc.
Ça veut dire qu'on fabrique de la cohésion sociale.
Tout à fait, oui, bien sûr.
On s'écoute.
Oui.
On ne part pas du principe que l'autre est un imbécile, et on se dit qu'il est... Il est conscient. Et au fond, est-ce qu'on reste dans un système où les experts et la bureaucratie tranchent, ou est-ce que on considère que les experts doivent éclairer, mais que le citoyen tranche parce qu'il doit vivre avec les conséquences. C'est lui qui va vivre avec telle ou telle loi. Et puis, comme nous ne sommes pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne de justice, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil d'État, nous posons nos questions en homme libre.
Oui.
En français libre.
Oui.
Et notre poids politique va être d'autant plus grand qu'on est en train de grossir. On sortira un film fin septembre qui sera, je l'espère, extrêmement populaire, qui passera sur les télés.
D'accord, oui.
Qui va raconter l'épopée d'un peuple qui devient un peuple de Français libres.
D'accord.
On
a hâte.
Mais vraiment de Français libres. Et qui font librement leur choix. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement des experts bureaucrates nous a emmenés vers 3600 milliards de dettes, un effondrement de notre niveau scolaire.
J'avais raté les derniers 100 milliards, pardon.
Oui.
J'étais resté à 3500, désolé.
Oui, voilà. Enfin.
Non, mais pas importe. Effondrement scolaire,
la construction s'est arrêtée, la production automobile s'est arrêtée. Donc, quand on nous dit oui, mais enfin, les gens sont des imbéciles, ah bon ?
Qui dit ça ?
Beaucoup de gens qui me disent, mais enfin, tu fais vraiment confiance au peuple français pour trancher sur le...
À partir du moment où on vote tous les 5 ans pour un bonhomme qui va ensuite faire ce qu'il veut pendant 5 ans, Pourquoi pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas nous consulter sur des choses aussi
oui puisqu'on va vivre avec leurs décisions.
Bon, voilà, on peut bien parler des ZFE puisqu'on peut voter pour un François Hollande, un Emmanuel Macron, etc.
La loi de 2000 qui stipule le texte européen qui dit que en 2035 le moteur thermique doit s'arrêter.
Bah oui.
Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous voulez conserver une liberté?
Ils sont revenus un petit peu en arrière parce que maintenant il n'y a plus que 10%. On a droit à 10%. Donc heureux les 10% qui pourront, ceux qui vont faire monter.
Oui, donc il y a des bureaucrates dans un coin qui tranchent pour vous.
Oui, voilà, ça, ils ont compris qu'ils avaient fait une énorme bêtise. Ouais. Et donc ils en font une autre.
Oui, mais nous, on s'est dit que c'était mieux d'être en démocratie.
Voilà, c'est ça.
D'être des Français libres.
Alors, vous êtes à l'écoute du Libre Journal des Économistes, l'émission ultra-néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Mon invité est Alexandre Jardin. Le thème du jour est « La démocratie entrera-t-elle par la fenêtre ?» il y a 4 semaines, puisque vous deviez venir il y a 4 semaines, et puis qu'un impératif vous avez empêché d'être des nôtres. D'ailleurs, on a diffusé une autre émission à la place. J'avais mis « La démocratie reviendra-t-elle par la fenêtre ?» Et puis finalement, « Entrera-t-elle » Je suis pas sûr qu'on l'ait connu. J'avais hésité, mais voilà. Là, j'ai hésité, j'ai pris dans l'autre sens. Voilà, et donc nous parlons de cette application référendum citoyen que vous pouvez télécharger, et qui, on espère, va changer un petit peu la donne dans un pays où la démocratie est très confisquée. Vous êtes nombreux parmi nos auditeurs à le noter.
Elle a encore un défaut, notre application,
qui va
être corrigée dans le courant de l'été,
oui.
C'est qu'elle ne marche qu'avec les 30 millions de passeports.
Oui, absolument. Oui, oui.
Pourquoi? Oui. Il faut que je m'en explique.
Alors, je vous laisse.
On était parti sur les cartes d'identité et nous avons découvert avec stupeur que l'État, dans son extraordinaire incompétence technique, a produit des cartes d'identité avec des puces qui ne sont pas stables, avec des séries, un nombre invraisemblable de séries. Donc, techniquement, ça a été extrêmement compliqué. Si on avait lancé ça avec les cartes d'identité, on aurait eu quasiment la moitié des cartes refusées.
Donc, oui, oui, oui.
Donc là, on est en train de travailler sur cet énorme problème.
Oui, oui.
On est en train de le résoudre, ça sera résolu dans le courant de l'été,
ben oui.
et ce sera ouvert aussi aux cartes d'identité. Ça m'a... D'accord. J'avais envie de pleurer de honte.
Mais oui,
lorsque je travaillais, oui. Travaillait... Alors, le pilote de tout ça, c'est pas moi,
ben oui.
c'est Robinson Jardin,
ben oui.
Mon fils, qui a 31 ans, d'accord. Qui est un dirigeant de la tech, et là, il fait travailler des armées. C'est très touchant, de jeunes gens de son âge, qui sont à Hong Kong, qui sont à Kiev, qui sont en Iran, qui sont dans le monde entier et qui travaillent en donnant du code gratuitement. Oui. Parce qu'ils disent, vous les Français, c'est à vous de faire la révolution, c'est votre boulot historique. Donc, faites cette révolution démocratique et puis, en boomerang, l'application reviendra dans nos pays.
Oui.
Donc, c'est le début d'une aventure les Français, dans laquelle les Français vont jouer un rôle de leader et d'entraîneur.
Voilà, et de cobaye aussi, mais enfin, en l'occurrence,
ça
va être un plaisir. Ça va être un plaisir.
C'est notre rôle historique, on est en train de le reprendre.
D'accord, soit. Alors, vous n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'émission au 01 46 51 00 85 ou directement sur le site de Radio Courtoisie. .fr ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Deux interventions d'auditeurs. Bonjour, que votre indicatif soit court, je le regrette pour vous, mais de mon côté, je préfère plutôt que passer plusieurs minutes aux dépens des invités. Certains de vos collègues laissent leur indicatif et j'avoue que c'est fort lassant, même s'il est agréable. CF Thierry Delcourt, je ne sais pas si je dois dénoncer comme ça. D'autre part, M. Jardin nous demande de remplir un interrogatoire, et à nouveau désolé, mais qui dit que ça ne fichera pas les gens mécontents. Bonne journée. Oui.
Alors, je vais répondre.
Oui, alors je vous écoute.
C'est très important. Et lorsque Robinson Jardin, mon fils, est venu me voir, il m'a tout de suite parlé d'une technologie que nous employons,
oui.
Qui s'appelle, je ne connais pas le nom en français, technologie Zero Knowledge,
oui.
Qui permet, depuis un an et demi,
oui.
Qui permet de faire de la reconnaissance d'une pièce d'identité pour dire que vous êtes français, que vous êtes majeur, qu'il n'y aura pas un double vote, et que toutes ces informations qui sont dans votre pièce d'identité restent, je répète, restent dans votre téléphone.
Oui. C'est-à-dire c'est une version cryptée qui entre oui. dans la machine et qui est quoi, effacée aussitôt ou...
Immédiatement.
D'accord, voilà.
Donc l'opération de reconnaissance de votre identité reste. Il ne faut rien envoyer sur Internet.
D'accord. Oui.
Et nous ne constituons aucun fichier, donc rien ne sera pillé,
bah oui.
puisqu'il n'y a pas de fichier.
D'accord. Alors, ce qui reste, c'est quoi ? C'est le cryptage.
Il reste simplement le cryptage du vote.
Voilà.
Et donc, qui part sur, dans l'endroit le plus sécurisé au monde, qui s'appelle
la blockchain.
La blockchain.
D'accord. Oui.
La blockchain, c'est quoi ? Il n'y a pas d'ordinateur central qui puisse être piraté.
Ah non, mais
ce sont des millions d'ordinateurs dans le monde qui sont reliés par un code.
Oui, enfin, c'est plutôt des blocs, disons, qui précisément sont validés avec un
travail de validation.
Mais il n'y a pas d'ordinateur central, voilà, c'est ça le gros avantage.
Et il n'y a pas de fichier non plus.
Oui, oui.
Donc, l'État doit cesser de faire des grands fichiers qui seront pillés.
Ah oui, en plus, c'est monstrueux, ils n'arrêtent pas de dire
on va mettre des pare-feux, non.
Il n'y a pas 15 jours qui se passent sans qu'on découvre.
Donc, je réponds à cette personne, rien ne sort de votre téléphone. C'est le système zero knowledge.
Ce qui sort, c'est surtout précisément c'est des systèmes de hashtag, etc., qui font que une information est codée dans un sens et n'est pas décodable dans l'autre.
Oui. Hein,
c'est-à-dire qu'on peut.
Mais votre identité sort pas de votre téléphone.
Oui.
C'est capital.
Oui.
C'est absolument capital.
Il
faut être paranoïaque.
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Oui, bien sûr. Oui. Alors.
Pour la raison qu'indique cette personne.
Oui.
Il n'est pas question que l'on sache ce qu'on a voté.
Oui. Enfin, sauf si vous voulez en faire la publicité, mais sinon ça vous regarde ensuite.
Oui, ça à chaque...
Personne ne peut vérifier. Mais donc, si vous l'avez vraiment...
Mais donc, nous, en tant qu'organisateurs, nous n'avons pas accès aux votants.
Oui, c'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs. Techniquement, on sent que le truc est parfaitement au point, fonctionne à merveille. Enfin, moi, j'ai été subjugué, disons, par l'efficacité de la chose. J'ai un petit peu galéré, mais 10 minutes, hein. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est la première appli que je charge. Forcément, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, mais ça s'est très bien passé. Voilà, donc j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait que je retire la coque de mon téléphone pour
que ça marche bien.
Voilà, et puis qu'il fallait que je me mette un petit peu le haut du téléphone sur le bas de mon passeport, disant voilà.
Ouais, voilà. Où est la puce
Voilà, là où sont la puce, j'avais pas compris. Enfin bref, et donc immédiatement, j'ai pu voter, confirmer mon vote, reçu la confirmation du fait que mon vote ait bien été enregistré. Enfin, ça fonctionne très très bien. Et donc je souhaite. Et alors à chaque fois que je vais voter, je vais devoir ressortir mon passeport, c'est ça. Et alors, si je revote sur les zones à faible émission, immédiatement, on va m'interdire de revoter parce que
on vous le dira très poliment, mais...
vous êtes déjà passé,
oui.
Voilà, c'est ça. Et alors, une fois de plus, hein, je répète à la dame, c'est des codes, c'est le H, là, c'est un système, alors je sais pas si c'est ça que vous utilisez, mais c'est des systèmes qui font... Vous prenez un livre, vous avez un H qui correspond à ce livre-là, avec la lecture de tous les caractères. Et si vous changez un accent, vous avez un autre H. Et c'est un nombre à, je sais plus combien, plusieurs milliards de milliards de milliards de milliards.
Je crois que c'est
250, alors le milliard puissance 8. Enfin, disons, donc c'est vraiment un nombre absolument impossible. Voilà, enfin, bref. Et ce nombre est évidemment unique, donc on sait... Si vous passez un livre à la moulinette, vous aurez le même hashtag si c'est exactement la même chose, et un H différent, si vous avez changé un accent ou une virgule, mais vous ne pouvez pas aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de livres qui pourraient potentiellement correspondre au même H. La seule chose, c'est que personne ne peut inventer la chose dans l'autre sens. Ce qui fait que votre truc est absolument... protégé, c'est comme un clapet électronique absolu, disons.
Oui.
Hein, vous pouvez aller dans un sens, vous générez un code, et à partir de ce code-là, vous êtes absolument incapable de remonter, parce que des milliards de milliards de milliards de milliards d'objets ou de passeports, etc., pourraient correspondre à ce code-là.
Il faut savoir que les codeurs qui travaillent avec Robinson, avec mon fils, beaucoup vivent dans des pays où se faire repérer, c'est mourir.
Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
Ou se faire arrêter, ou avoir les pires problèmes.
Oui.
Donc, ils sont à des niveaux de paranoïa, parce que quand vous habitez Hong Kong, quand vous habitez...
En Iran, etc.
Vous faites très attention.
Bon,
tous ces jeunes nous ont offert, puisqu'ils ont donné leur code...
C'est open source, source ouverte, comme on dirait en français.
Et puis, si vous avez un doute, vous allez sur le site ou sur l'application, vous téléchargez le code qui est en open source et vous le demandez à une intelligence artificielle de l'analyser. Vous pouvez faire ça. Et vous obtiendrez des réponses. En fait, on ne veut pas être cru.
Oui.
on veut que les gens puissent vérifier par eux-mêmes.
Bien sûr, oui, oui. D'accord. Oui. Donc voilà, il n'y a pas à faire confiance à Robin Bonjardin ou à Alexandre Jardin. Non.
On peut télécharger le code et
d'accord, oui, c'est ça.
Et aujourd'hui, avec un outil d'IA, on peut l'analyser.
Excellente émission, nous dit cette auditrice, merci beaucoup, mais s'il vous plaît, ne coupez pas la parole. Oui, c'est mon vice, je ne peux pas m'en empêcher, c'est terrible. Je vais essayer de me polisser. N'hésitez pas à me faire chute comme ça, si vous avez quelque chose de... Voilà, vous voulez continuer sur votre idée. Un auditeur nous dit « Bonjour, la dernière imbécilité de nos bureaucrates n'est-elle pas de rançonner au-delà de l'imaginable les petits colis hors Union européenne multipliant le prix des articles par un facteur de l'ordre de 10 ?» Taxer massivement les importations de ce qu'on ne produit pas et qu'on ne produira jamais parce qu'on ne sera jamais compétitif, n'aboutit qu'à rançonner et appauvrir l'acheteur et à engraisser les parasites étatiques et leurs larbins du style mandataires en douane, dinosaures d'un temps révolu. En plus, ces taxes pénalisent lourdement les entreprises artisanales de réparation, de maintenance et les créateurs, particulièrement par tout ce qui concerne l'électronique. Pour tout ce qui concerne l'électronique, mais nos amputés bureaucrates savent-ils que ces activités existent ? On est heureux d'apprendre que cela doit permettre de réindustrialiser l'Europe, probablement par des fabriques de taille crayon. Voilà, merci cher auditeur pour votre...
Alors, cet auditeur a raison. Si cet auditeur était suisse, il pourrait mettre ça...
Bien sûr, oui, en initiant...
En initiant ce qu'on appelle là-bas une initiative populaire.
Oui, oui.
Il est français, il ne peut pas.
Bien sûr, oui.
Il est prié de se conduire comme un gueux, de ravaler son idée, et il n'a pas d'action.
Bien sûr, oui.
Donc, comme ça nous est intolérable, on va ouvrir cette application. Monsieur, venez déposer cette idée.
Oui.
Et si un nombre que l'on va définir très bientôt de gens signe, ça deviendra un référendum.
Ça, l'ouverture à des idées, c'est dans combien de temps ?
Dans à peu près après le 15 juillet,
d'accord.
On va définir des règles de manière à ce qu'il n'y en ait pas trop, parce que si on se retrouve avec 800 référendums, on ne pourra pas.
Oui.
Donc, on va les prendre par ordre d'importance, et puis on va accompagner la nation dans son expression. Mais là, c'est un point très important. La décision, par exemple, de taxer...
Les petits colis.
De taxer... Les livraisons d'Amazon pour les bouquins.
Oui, oui.
C'était présenté comme quelque chose de protecteur pour les libraires.
Oui, oui.
Dans la vraie réalité, ça a taxé essentiellement la ruralité. Parce qu'essayer de trouver un bouquin dans la ruralité...
Bien sûr, oui.
Donc
même désormais, il y a quand même 630 livres qui sortent par jour en France, et encore mes chiffres ont quelques années.
Mais ça a été une taxe sur les ruraux.
Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça, bien sûr. Bien d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ça a commencé... Enfin, ça a commencé d'abord par cette taxe obligatoire, le fait de devoir facturer les frais de transport. Amazon, le premier jour, a dit ce sera un centime par transport, par colis. Donc tous les VPCistes, comme on dit, vendent par correspondance, ont fait ça à un centime. Ça a duré je ne sais pas combien, 10 ans. Au bout de 10 ans, le législateur s'est énervé en disant « on s'est foutu de moi ». J'avais prévu qu'on paye ce truc-là, les gens n'ont pas payé, donc il a fait une loi encore un peu plus compliquée, qui fait que les gens augmentent leurs commandes sur Amazon.
Qui fait que le marché du livre...
Augmentent leurs commandes sur Amazon pour ne pas avoir à payer les frais de port.
Non, dans la réalité, les commandes de livres ont chuté. Bon.
Sur Amazon, voilà. Après avoir puni les ruraux, voilà.
Les ruraux, ils écoutent, ils subissent, et n'ont aucun moyen d'action. On va basculer dans ce nouveau système parce qu'on va imposer notre puissance. Il faut établir un rapport de force. Référendum citoyen, ça a l'air très souriant, très sympa.
Ah oui.
Mais dans la réalité, c'est un outil de puissance pour le citoyen.
Bien sûr. Oui.
Moi, je défendrai tous les résultats, quels qu'ils soient, que ça me plaise ou non.
Alors, à ceci près, peut-être, non, que... Enfin, je vous pose la question. Justement, de ce dont je parlais tout à l'heure, de cette idée de subsidiarité horizontale, pour employer encore une fois les mots du professeur et maître Jean-Philippe Feldman, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a quand même des choses qui appartiennent à l'individu, à la société civile, etc., et qui ne sont pas du ressort du vote. Hein, autant, effectivement, de savoir s'il faut acheter 2 ou 3 tanks est une question qui peut se poser à tous les citoyens. Autant savoir si je dois boire du thé après 17h ou pas, ça me regarde. Voilà.
Nous, on va publier après le 15 juillet, une charte éthique.
D'accord.
Je vais vous prendre un exemple de ce qui nous paraît extraordinairement important. Aucun référendum national n'aura le droit de s'attaquer à une pratique culturelle locale. De manière à ce que le jacobinisme ne repasse pas par la voie référendaire.
D'accord.
Il ne faut pas que le référendum devienne un outil oppressif.
Oui, oui, parce que si les courses de vachettes plaisent à Nîmes, etc., enfin, je veux dire,
qu'ils fassent leur référendum.
Qu'ils fassent leur référendum à Nîmes, oui, bien sûr. Oui, oui.
Entre eux. Mais qu'il n'y ait pas une espèce de jacobinisme.
Oui, bien sûr. Tentation jacobine, qui est très présente dans notre pays. C'est-à-dire, on entend très souvent dans les débats publics, y compris au Café du Commerce, hein, on entend très souvent les Yaka Faucon, etc. Tout le monde se prend pour le président de la République parce que finalement c'est le seul poste en France où on n'est pas l'esclave.
Alors justement, le président de la République, la vérité c'est qu'on entre dans une année électorale avec une très grande fiction. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment que l'élection du président et qu'une majorité à l'Assemblée nationale va pouvoir décider.
Oui.
Mais nous ne sommes pas il y a 30 ans. Mmh. On est aujourd'hui dans un cadre où les textes européens, où la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, où le Conseil constitutionnel s'est incroyablement autonomisé. Donc, le Conseil d'État exerçait également un contrôle. Donc, l'espace démocratique s'est rétréci. Vous ne pouvez pas voter ce que vous voulez en matière d'immigration. Vous ne pouvez pas voter ce que vous voulez dans un nombre hallucinant de sujets.
Évidemment, oui, bien sûr.
Or, tous les candidats se présentent comme si on était il y a 30 ans.
Oui.
Aujourd'hui, ce n'est pas vrai.
Oui, oui.
Donc, on est en train de dire aux Français, participez à un référendum citoyen. Pourquoi? Parce que si la puissance référendaire ne revient pas, on ne pourra pas remettre de l'ordre dans le pays.
Oui.
Juridiquement, on ne pourra pas. Je pose une question toute bête. En cas de conflit entre le droit français et le droit de l'Union, est-ce que le droit français doit primer? C'est à vous de répondre.
Vous posez cette question sur référendum citoyen. Supposons, bientôt. Théoriquement.
Oui, voilà, oui. Mais, ça, oui. Mais c'est une question fondamentale. Tout le monde sait très bien qu'on ne va pas évaporer les Allemands ou les Italiens, ils sont là.
Bon. Oui, voilà, bien sûr.
Donc,
nous ne le souhaitons pas.
Non, mais donc, il faut qu'on trouve une manière de vivre ensemble,
bien sûr, oui,
sur le continent, mais en cas de conflit. Il n'y a pas tous les matins des conflits.
Non.
Mais en cas de conflit, est-ce que vous voulez rester des citoyens? Est-ce que vous voulez conserver votre puissance de décision et votre dignité? Ou est-ce que vous considérez que les bureaucraties ont le droit de vous marcher dessus? Donc, ça, ce sont des questions que l'on va soulever. Mais vous voyez bien qu'une présidente ou un président qui se présente en laissant entendre que ce... qu'on est il y a 30 ans, on n'est pas il y a 30 ans.
Oui, bien sûr.
On est en train de réhabituer la nation à reprendre les clés.
D'accord, oui, oui. Parce que
la puissance référendaire est immense. Pour des changements constitutionnels, l'affirmation du droit français supérieur au droit européen, ça, on peut. On peut y toucher par le référendum.
Oui, oui.
On est en train d'essayer de reprendre le contrôle d'une situation hors de contrôle.
Oui. Intervention d'auditeur. On peut croire encore en cette république déicide, régicide qui massacre légalement les enfants à naître, indésirables, les malades, les dépressifs, les suicidaires, les étiquetés incurables, les vieillards et autres inutiles à charge. Où est le bien commun à défaut de véritable charité chrétienne?
Eh bien, posons la question par voie référendaire.
Voilà.
Cette personne soulève... est-ce que nos parlementaires ont reçu mission divine de s'exprimer sur quelque chose de fondamental à votre place? Moi, j'ai la faiblesse de penser que la mort et la vie nous concernent tous.
Oui.
Au premier chef, on accompagne nos parents, nos grands-parents. Un jour, on va s'accompagner soi-même. Est-ce que cette question n'est pas... du ressort de toutes les personnes qui nous écoutent?
C'est une bonne question, pour le coup, cette question-là.
Oui.
Par exemple, en Suisse, il y a des associations d'aide à mourir, etc. Voilà, le truc fonctionne très bien, y compris... Est-ce que c'est une question individuelle? Est-ce que c'est une question collective? Je ne sais pas. Enfin, à titre personnel, je suis un grand partisan de la vie, disons, et puis aussi un grand partisan du fait qu'on ait le droit de parler de ces questions-là et d'en débattre sans se faire injurier ou en tout cas de recevoir une amende, etc., etc. Donc ça, là-dessus, aucun doute. Ensuite, sur les choix opérés, est-ce qu'il s'agit de choix individuels? Est-ce qu'il s'agit de choix collectifs? Je ne sais pas trop.
J'aurais du mal. Là, il y a vraiment un texte dans les tuyaux.
Oui.
Et moi, j'ai découvert avec stupeur qu'au nom de l'inclusivité, de l'universalité des droits, ça s'appliquait aux gens souffrant de handicap mental.
Oui.
Ça m'a fait froid dans le dos.
Oui, non, bien sûr, je comprends très bien. Enfin, mais, je vous dis,
froid dans le dos.
Mais, je vous dis, c'est
tout ça au nom de l'inclusivité. T'as con, on devient fou. Donc, là. En tant que citoyen, je ne suis pas d'accord.
Très bien, alors nous allons nous interrompre quelques secondes pour un bobino et puis on vous reprend en studio immédiatement.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Ici. En ligne. Nous sommes au 61 boulevard Murat et donc merci chers auditeurs, nous revoici en studio. Alors un auditeur nous dit ou une auditrice nous dit s'il vous plaît rappelez régulièrement comment télécharger l'application. Donc il y a Alexandre Jardin là qui est un tout petit peu occupé mais qui va nous le rappeler dans quelques secondes. Une autre intervention d'auditeur, cette émission est instructive et sincèrement passionnante, mais l'animateur ne devrait pas couper la parole, décidément. Décidément, il faut que j'arrête, c'est l'horreur. Alors bon, j'ai trop de... Voilà, mais là, je coupe la parole, c'est pas que je coupe la parole, c'est que je donne la parole à mes auditeurs, alors à nos auditeurs. Alors, une enquête d'OpinionWay nous dit cet auditeur ou cette auditrice, diligentée par Le Monde, peu suspect de sympathie pour le populisme, montre que plus de 80% des Français se défient des politiciens de la démocratie prétendument représentative et optent pour un pouvoir fort. Bon constat, mais 47% font même le vœu d'un appel à l'armée, ce qui démontre leur inculture historique et politique, leur romantisme qui leur fait ignorer l'attrait de la gamelle. On attend le sauveur, De Gaulle, mais on crache sur Poutine. Bref. La crise est plus que profonde, le peuple le plus intelligent de la planète creuse, armons-nous et partez, reste le slogan d'actualité. Bien, bah écoutez, voilà un message transmis. Notre auditeur ou auditrice vous posait donc la question, Alexandre Jardin, de rappeler régulièrement comment télécharger l'application.
Alors,
j'ai fait ça hier, c'est très simple. Hein.
C'est très simple. Voilà. Vous allez, si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android...
Un Android.
Vous allez sur la banque d'applications de la marque.
Oui, voilà, l'App Store ou l'Android Store.
Oui,
je crois, oui.
Et vous tapez référendum citoyen.
Ah oui.
C'est bleu et jaune.
Je crois d'ailleurs que j'ai même pas. Je crois que je suis allé sur l'internet via mon téléphone. J'ai tapé référendum citoyen et on m'a tout de suite proposé télécharger l'application.
Oui. Est-ce que numéro 1, voilà. Ça apparaît.
Voilà. Alors télécharger l'application, j'ai choisi évidemment mon format. Et c'est rentré, voilà.
Si vous avez un passeport, vous pouvez voter. N'hésitez pas, quand on entre dans l'application, à cliquer sur « En savoir plus », parce que vous allez tomber sur le dossier technique, et les arguments pour et les arguments contre. On a vraiment demandé à chaque équipe de penser contre soi, de se conduire bien en démocrate.
Oui, oui.
De manière à faire fonctionner la démocratie.
Ouais, oui.
Et on a vraiment veillé à ce qu'il y ait une probité.
Oui, oui.
On veut que ce soit quelque chose de digne. Et pourtant, je suis passionnément pour certaines questions,
oui.
Mais je reconnais que l'autre a le droit d'exister.
Bien sûr, oui, tout à fait. Et donc, souvent d'ailleurs, les gens confondent et s'imaginent que la démocratie est porteuse de raison. Or, en fait, elle n'est pas porteuse de raison, elle est porteuse de pacification.
Oui, oui.
Hein, c'est-à-dire que la majorité n'a jamais raison, j'ai envie de dire.
Un taxi
Il y a Margaret Mead, je crois, qui dit ne doutez jamais, ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens peut changer les choses. Ça ne s'est jamais produit autrement, ou en substance en tout cas. Donc c'est une anthropologue américaine. La raison appartient de toute façon aux philosophes. Elle appartient aux sages. Elle appartient à des gens qui réfléchissent sur des questions données. Ça n'est jamais à la majorité. Enfin, la majorité n'est pas un bon facteur de raison. En général, la majorité a tort. C'est presque son rôle. Alors, elle peut avoir raison sur quelque chose, sur une question. Évidemment, l'addition de 2 plus 3, je veux dire, il n'y a pas de problème. Tout le monde, on dégagera sans doute une large majorité sur le même résultat. Mais en revanche, pour les questions du moment, les questions philosophiques, disons, qui se posent, on n'est jamais un bon observateur de notre époque. C'est des choses qu'on comprend avec beaucoup de recul, mais pas toujours. Donc l'idée n'est pas de se dire la majorité a raison. C'est seulement que on sait que si jamais les gens se battaient, grosso modo, s'il y a 80% qui pensent un truc et 20% qui pensent autre chose, en général, c'est les 80% qui gagnent. Donc voilà, la démocratie est un système de pacification des relations humaines. C'est juste se dire, bon ben voilà, ça, on va pas se battre, ne nous battons pas. Alors, ça a beaucoup d'effets négatifs, je pense au livre de Dan Sermon Hope, Democracy, the God That Failed. Voilà, la démocratie a beaucoup de défauts et conduit d'ailleurs à ces 3500 milliards de dettes, ces 8 millions de lois qui s'appliquent à des Français, etc. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, mais en tout cas, entre autres problèmes, il y a que très très vite on arrive à des situations où, puisque les gens qui aiment le pouvoir l'aiment en tant que bien, comme Machiavel définit ça, disons, on arrive très vite à des 51-49 sur tous les sujets. Mais peu importe, c'est pas grave.
Alors, je voudrais répondre.
Alexandre Jardin, oui.
Un de nos objectifs, c'est de faire émerger les très lourdes majorités françaises qui n'arrivent pas à parler.
Oui.
Et or, qu'est-ce qu'on voit sur les premières questions? C'est qu'on a des scores monumentaux, de l'ordre de 90%. Je vais prendre un sujet. En France, tout le monde a un problème avec les normes. Tout le monde. Toutes les mairies.
Oui.
Les artisans. Les agriculteurs. Les éleveurs. Les entrepreneurs, les associations, tout le monde est plus ou moins dans l'illégalité.
Oui, oui.
Tellement le système est devenu fou.
Oui, oui.
Et non seulement il est devenu fou, mais il fait que le citoyen, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit artisan, est en réalité toujours à la merci d'un petit flic administratif.
Bien sûr, oui. Qui, d'ailleurs, finalement, ils finissent par penser que c'est leur rôle, leur rôle est d'emmerder les Français.
Donc on a l'ensemble... Oui, voilà. Tout le monde le vit, ou plutôt le subit.
Oui, le subit. Oui.
Est-ce qu'on va prendre des décisions référendaires pour desserrer massivement ce cauchemar qui a mis à bas le logement, qui a mis à bas les voitures, qui a mis à bas les artisans, qui met à bas les paysans, qui met à bas...
Voir toutes les émissions du livre au journal des économistes.
Voilà. Non, mais c'est complètement
ces 5 dernières années.
Les codes normatifs partir de 1991... ont explosé.
Bon. Bien sûr, oui.
Aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour une mairie d'être dans la légalité. Lorsque je fais des réunions avec des maires ruraux et que je leur pose la question, êtes-vous dans la légalité? Il y a un fou rire dans la salle.
Bien sûr, oui.
Et il y a une dame qui a levé la main et qui a dit, Monsieur Jardin, il faut bien qu'on aide les gens. Donc, on en est là.
Non, mais bien sûr, on l'a vu avec les haies des agriculteurs, qu'il y avait 16 lois, dont plusieurs contradictoires, qui s'appliquaient rien que sur les haies.
Oui, sur les haies.
Voilà, bon, etc. Bon, c'est comme ça dans tous les domaines. Enfin, c'est mon souhait, bien sûr.
Dans mon village de l'Aude, on nous a empêchés, il y a 3 ans, de faire venir des chèvres pour nettoyer la garrigue. Ça fait 3000 ans qu'on nettoie la garrigue comme ça, au motif qu'il y avait un écolo dans un bureau qui avait édicté un règlement anti-chèvre. Bon, il n'avait jamais vu une chèvre. Il a fallu...
Et il ne voulait pas en voir, hein, d'ailleurs.
Oui, il ne voulait pas en voir.
Il considérait que ce n'était pas une espèce locale. Oui.
Et on a réussi à imposer la chèvre, le retour de la chèvre dans notre commune. Oui. C'est pour ça que nous n'avons pas brûlé l'été dernier. Nos routes sur la commune et nos chemins ont servi de pare-feu.
Oui, bien sûr.
Ça avait été nettoyé par les chèvres.
Bon. Oui, c'est bien connu, hein, d'ailleurs, que les moutons et les chèvres mangent les broussailles. Ça permet d'éviter...
Est-ce que vous pensez que le jour où on pose une vraie question systémique pour libérer la France de cet appareil normatif, est-ce que Les Français voteront ? Ou est-ce qu'ils voteront pas ? Est-ce que la majorité sera quoi ? De 70, 80 ou 90 ? Les Français n'en peuvent plus.
Il y a de nombreux référendums en Suisse qui sont, je ne sais pas quoi, ils ont voté à 76% contre le SMIC, avec le même chiffre d'ailleurs, 76% aussi, les virgules ne sont pas les mêmes, mais 76% contre le revenu universel, ce qu'ils appellent le revenu de base là-bas. Donc il y a des majorités qui peuvent se dégager. Mais il y a un biais, est-ce que j'aurais fait l'effort hier d'aller sur votre appli et de voter contre j'ai voté contre les zones à faible émission. Est-ce que j'aurais fait l'effort de voter pour ? Ça n'est pas sûr. Alors c'est sûr que s'il y a 100 000, 200 000, 2 millions de gens qui votent là-dessus, bon, dans ce cas-là, ça oblige à organiser un référendum. Et c'est ce référendum-là qui nous donnera le vrai chiffre. Alors des sondages peuvent nous faire accéder, disons, à la probabilité de gain ou de perte de ce référendum. Mais en tout cas, il faut un moment poser pour de vrai la question. Oui. Et alors c'est ça, à ça que je pense que sert surtout votre application, c'est de stimuler, de rendre obligatoire finalement la consultation des Français sur un sujet comme celui-ci. Mais les gens vont naturellement être plus motivés, parfois pour dire oui, parfois pour dire non, et font les zones à faible émission existent. Donc du coup, les gens qui sont pour n'ont pas forcément envie de télécharger l'application, machin, de mettre leur passeport, de voter, etc. etc. Alors que s'ils sont contre, ils peuvent être très motivés, ils vont se mobiliser. Et alors c'est ça, c'est là qu'il peut y avoir un biais, mais évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut derrière poser la vraie question.
Alors ce biais, ça s'appelle la démocratie.
Oui, non, bien sûr.
Ça s'appelle finalement, et c'est toute la différence entre un sondage et ce que nous faisons. Un sondage, c'est une représentation du réel. Oui. On demande à 1000 personnes de faire parler 66 millions.
Oui.
Là, les gens qui votent sur référendum citoyen, ce sont des gens réels.
Oui, mais qui respectent pas forcément, parce que un citoyen, je suis d'accord qu'un sondage, c'est que en général à peine plus de 1000 personnes, oui c'est ça, et voilà, on respecte alors les catégories socio-professionnelles normalement, les âges, etc., pour avoir une photographie qui soit à peu près pas trop fausse, je crois plus ou moins 2,5% exact, disons, enfin il y a parfois de plus grosses erreurs qui émergent de ce que pense la population, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne remplace le vrai vote, au sens où c'est après, en général en Suisse, c'est après un an et demi de débat, etc. Voilà, on sait longtemps à l'avance que la question va être posée aux électeurs, les gens débattent pendant longtemps, etc. Puis parfois, de très larges majorités, effectivement, se dégagent le jour du vote, et la question est réglée, on n'en parle plus. Hein, mais il n'y a pas ce biais de ne pousser vers les urnes uniquement les gens qui sont pour ou qui sont contre.
Je revendique ce biais.
Parce que ça s'appelle le
combat démocratique.
Oui, bien sûr. Oui. Et puis c'est intéressant de savoir qu'il y a 100 000, 200 000, 2 millions de gens qui sont motivés par la disparition.
Ça signifie quelque chose. D'autant plus qu'il n'y a pas de possibilité de triche. Or, on sait très bien que dans les pétitions, les gens peuvent voter plusieurs fois. On le sait.
Oui, bien sûr, on triche très facilement.
Extrêmement facilement, et je connais plein de logiciels qui permettent de faire monter les chiffres.
Il y a des usines à clics.
Oui,
des choses comme ça. Votre usine, ça ne marche pas avec un référendum citoyen.
Là, on sait qu'il y a un véritable être humain.
Français, majeur.
Donc, c'est très différent.
Oui, bien sûr, non, ça, je suis bien conscient.
C'est un acte de citoyen de voter, en fait. Mais c'est valable aux dernières élections municipales à Marseille. Celui qui devient maire de Marseille, il avait 16% du corps électoral.
Donc,
à Paris, 23.
À Roubaix,
14.
Vous prenez quoi en compte le premier tour, c'est ça
Au deuxième tour,
oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont élus avec quasiment personne.
Tout à fait. Si les autres ne se déplacent pas. C'est aussi, ça fait partie de... Là, on a le droit de ne pas voter. On a le droit d'avoir aucune opinion sur un sujet.
Eh bien, référendum citoyen, c'est pareil. Et puis, c'est... à un moment, il y a tellement de lobbies.
Oui, bien.
Ça nous a semblé convenable qu'il y ait un lobby pour les citoyens.
Un groupe d'intérêt, comme on dit sur cette radio.
C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'intérêt qui propose aux citoyens de revenir au cœur de la campagne.
Oui.
Et plus on va être nombreux, plus vous allez voir que les appareils partisans vont devoir se positionner devant un nombre considérable de gens.
Oui.
Et
Oui, bien sûr, oui, ils ne pourront pas faire ignorer, ils ne pourront pas faire semblant.
En période électorale.
Et même en dehors des périodes électorales, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que vous prolongez cette démocratie sur les 5 années qui ne pourront pas. Au-delà des.
Et ils vont rentrer dans un autre système, qu'ils le veuillent ou non.
Alors, une autre question, d'ailleurs, il
ne le souhaite pas vraiment.
Ah oui. Alors, je vais d'abord lire une. Alors, je rappelle d'abord que vous êtes à l'écoute du libre journal des gueux et des économistes sur Radio Courtoisie, que mon invité est Alexandre Jardin, que le thème du jour est la démocratie entrera-t-elle par la fenêtre. En l'occurrence, nous parlons donc de cette application référendum citoyen. Va-t-elle changer la donne? Je l'espère, je le pense, et il semblerait que ce soit le cas. C'est en cours, voilà. Et donc, la lecture d'une intervention d'auditeur. Messieurs, par pitié, évitez d'employer les termes de novlangue administrative républicaine solidaire et démocratique. Parlez de campagne, de province, mais pas de ruralité. Parlez de région, de province, de terroir, mais pas de territoire. Alors, je ferai attention, d'accord, de bien parler de province et de campagne plutôt que de ruralité. Mais la parole de mes invités est libre de toute façon. Voilà. Je vais lire d'autres interventions. Le plus beau dans l'histoire des taxes sur les petits colis, nous dit cette auditrice, c'est que le but supposé était de contrer les productions de vêtements à bas coût venant d'Asie, surtout des distributeurs Shine et Temu. Or, l'un d'eux vient d'ouvrir un entrepôt de 740 000 m² en Pologne, d'où il livre dans l'Union européenne en payant des droits de douane généreux qui dépendent. Ou généraux, enfin il y a marqué généraux, qui dépendent des accords de l'Organisation mondiale du commerce. Donc la Pologne encaisse la taxe à valeur ajoutée qui était perçue auparavant par l'État de l'acheteur. Au passage, la Chine avait dévoilé en début d'année une filature sans employés humains, comprenant 5000 robots commandés par intelligence artificielle et une chaîne de production de smartphones ou d'ordiphones de 130 postes robotisés, allant des composants à l'emballage, mais on continue d'importer des chômeurs sous prétexte de métiers en tension. Intelligents nos bureaucrates, nous dit toujours cet auditeur. Voilà, et puis j'ai encore une intervention d'un auditeur. Bonjour messieurs, et merci de votre présence. Votre règle de minorité dans la vérité ne s'applique pour ma part qu'aux sociétés catholiques d'origine, cette minorité ayant infusé pendant des millénaires et ayant fait jaillir une civilisation dans l'ensemble en vérité, il suffit de voir le degré d'achèvement individuel et collectif de notre pays, même si sa dégradation très rapide est alarmante, la grâce étant que le peuple français a acquis en majorité une vérité et aura raison dans l'ensemble, raison certes à tempérer impérativement par Dieu et son lieutenant, le futur grand monarque de notre fin des temps. Dieu vous garde tous et toujours. Voilà, je lis toutes les interventions, je ne suis pas forcément en accord avec ce que disent nos auditeurs, mais je suis ravi de lire ces interventions. Voilà, donc Alexandre Jardin, oui, je voulais vous poser une question sur... Alors, nous disions à l'instant que les référendums, enfin les sondages en général portent sur 1000 personnes. Je crois que le département le moins peuplé de France, je crois la Lozère, a 76 000 habitants. Donc c'est largement, c'est 76 fois, on va dire, ce qui existe pour un sondage. Et finalement, la démocratie fonctionne très très bien dans les petits domaines. D'ailleurs, il y a une célèbre citation d'Alexis de Tocqueville qui est, il faut juste que je la retrouve, c'est pourtant dans la commune, nous dit-il, dans la démocratie en Amérique. C'est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d'un moment, le hasard des circonstances peuvent lui donner les formes extérieures de l'indépendance. Mais le despotisme refoulé dans l'intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la surface. Voilà, et donc je crois que la démocratie, et je pose la question pour référendum citoyen, comment est-ce que ça peut fonctionner à l'échelle locale, à l'échelle d'un département, d'un canton, d'une zone comme ça, limitée, d'une commune
outil, oui. Notre outil sera adaptable aux référendums locaux.
Très bien, oui.
À partir du moment où une région...
Oui.
Une communauté de communes, une commune décidera d'utiliser notre outil pour consulter les gens. Eux ont le fichier des gens.
Oui, oui.
Donc, ils pourront dire qui habite là.
Alors là, dans ce cas-là, c'est le maire, par exemple, qui veut utiliser référendum citoyen pour faire une consultation.
Le développe pour qu'il y ait des adaptations locales.
Mais alors, est-ce que ça peut être légalement accepté
Il y a quelque chose qui...
Sachant qu'il n'y a que 96%, c'est énorme, mais 96% des gens qui disposent d'un ordiphone.
Alors non, parce que notre application est une urne. C'est-à-dire que sur votre application, vous pouvez faire voter plein de gens.
Ah oui, d'accord.
Dimanche matin, j'étais dans un café.
Ah oui, très bien.
Je demande à payer mon café et le patron me dit non, parce que vous servez la France.
Ah oui.
Ça fait plaisir de vous offrir votre café. Et il me dit, moi, j'ai été sur votre application, j'ai voté pour la question sur la responsabilité des juges, pour qu'ils ne soient plus jugés par d'autres juges, mais par des gens non magistrats.
Oui.
Et je lui dis, pourquoi vous avez voté là-dessus? Et il me dit, j'ai eu un énorme problème de pédophilie dans ma famille.
Oui.
Il y a eu une inconduite terrible de la magistrature. On l'a très, très, très mal vécu. Donc ça, je ne veux plus jamais. Donc il me dit, j'en parle dans mon café.
Ah oui.
Et je demande aux gens de venir avec leur pièce d'identité, avec leur passeport.
Ah oui, très bien. Et de venir voter. Oui,
et
d'accord.
De venir voter au bistrot.
Oui, d'accord.
Et des gens votent sur son application.
D'accord, oui.
Or, ça se multiplie. Il y a de plus en plus de boulangers en France qui font ça.
Ah, excellent, oui, d'accord.
Sur les ZFE, le vote augmente en ce moment beaucoup dans les boulangeries.
D'accord.
Donc, ils se comportent comme des citoyens. C'est assez impressionnant.
Oui.
C'est assez impressionnant de voir ce pays qui est en train de faire quelque chose de plus puissant que nos intentions initiales.
Oui, oui. C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas anticipé.
Ça se fait. Oui. Les gens sont en train de s'en emparer. Et de même que nous sommes assaillis de coups de fil de gens vivant dans d'autres pays qui se demandent comment l'adapter en Allemagne, comment l'adapter en Californie, beaucoup de Californiens, comment l'adapter en Israël, comment l'adapter.
Mais finalement, il suffit uniquement de traduire ce qui est en français.
Ce qui se fait en 5 minutes, le code est disponible.
Oui, oui, oui.
Et ils peuvent démarrer avec des passeports puisqu'on a tous la même puce.
D'accord, oui.
D'ailleurs, pendant que nous parlions, je viens de recevoir une nouvelle.
Ah, oui.
J'ai une confirmation. Nous aurons bien, avant septembre, le vote par les cartes d'identité en plus des passeports.
Ah, bah très bien, parfait. D'accord.
Tu peux confirmer qu'on aura la carte d'identité en septembre.
D'accord, bah, très bien. Donc, pour l'instant, c'est seuls 30 millions de Français disposant d'un passeport peuvent voter. Très bientôt, la totalité des personnes majeures, en tout cas, pourront voter. Très bien. Une autre intervention d'auditeur. Les normes ont-elles maintenant pour but principal de garantir les monopoles des groupes installés?
Oui.
Ce sont les armes classiques des barrières non tarifaires que les Américains ont largement utilisées pour se protéger tout en pénétrant les marchés européens.
Oui, je peux vous garantir que derrière toute norme dite écolo, vous avez un très gros lobby qui gagne beaucoup d'argent. Donc,
Je termine peut-être juste l'intervention de l'auditeur. Par exemple, il est impossible de vendre aux États-Unis un matériel qui ne soit pas estampillé UL, c'est-à-dire ne comportant que des composants approuvés par les Underwriter Laboratories, laboratoires de souscripteurs, car le matériel ne sera assuré par aucune compagnie sans ce label. En outre, les producteurs participent directement à la rédaction des normes, car les labos officiels ne possèdent pas les compétences pratiques. Tout à fait, voilà. Merci, cher auditeur.
On voit bien que la question des normes, c'est une histoire de gros sous. Donc, à un moment, il va falloir que le citoyen remette son nez là-dedans et revienne en juge de paix. Parce que finalement, c'est lui qui paye.
Il y a aussi d'ailleurs un problème, j'ai plus les sources en tête, mais les Chinois ont fait une intrusion monstrueuse dans toutes les organismes européens et internationaux de normes.
Oui, évidemment.
Bien sûr, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très simple.
Ils ne vont pas être contents du tout que le citoyen... nos différentes déclinaisons qui viendront au fil du temps en Europe nous permettront de lancer des référendums
européens.
Sans demander la permission.
Oui, non, c'est ça qui est grandiose.
Oui, c'est un instrument de libération.
Oui.
Parce que on a lancé ça sans demander l'autorisation à qui que ce soit. On s'est comporté comme des gens qui considèrent que la source de la souveraineté, ce sont les gens qui nous écoutent.
Ah oui.
Notre
non,
citoyenne.
Mais non, mais c'est ce qui est la source normalement de la démocratie,
oui,
bien sûr.
Oui. Oui, oui. On revient à une véritable logique. Moi, ce sont des émotions que j'ai connues enfant.
Oui, oui.
Parce que mes grands-parents paternels et mon père est enterré à Vevey, en Suisse.
Oui, ah oui.
Et donc, je passais du temps l'été.
Ah oui, oui.
Et on m'avait emmené, enfant, oui. Je devais avoir, je sais pas, 10 ans.
Oui.
Dans une votation
oui.
qui à l'époque se faisait à main levée.
Ah, excellent.
Dans un canton au bout du lac Léman.
Ah oui.
Et j'ai le souvenir de. Il y avait des gens sur des chaises qui comptaient.
Ah oui.
Et tout à coup, j'ai vu des gens debout qui levaient la main.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Et il y avait une dignité.
Oui.
Le postier valait le médecin.
Oui.
Le médecin valait l'institutrice. Il y avait un moment. Je les ai trouvés beaux.
Oui, non, mais bien sûr, ça, non, je comprends.
J'ai trouvé qu'il y a...
Moi, j'adore. Hein, c'est, tout le monde dit, oui, c'est un scandale, parce que...
Il y avait un côté grec.
Le vote à main levée, comme par exemple, oui. Ça a été interdit en France pour les assemblées syndicales, parce qu'on sait bien que ça permet...
Oui, ça permet
d'exercer des pressions sur les
ouvriers qui votent. Oui, mais c'était ce canton qui l'avait décidé.
Mais tout à fait, non, bien sûr, c'est conservé.
Et qui est-on pour expliquer aux gens qui doivent vivre autrement?
Non, bien sûr. Et puis là-bas, on sait bien qu'il n'y a pas de pression, disons. Enfin, il n'y a pas de pression. Il peut toujours y avoir un frère qui vous regarde, si jamais il est concerné.
En tout cas, il y avait quelque chose de digne.
Oui, bien sûr, oui.
Et puis surtout, leur mode opératoire avait été décidé par eux.
Oui, bien sûr. Oui.
Oui,
puis ça fait partie de leur tradition. Voilà, ouais. c'est un peuple démocratique, et là, ça se voit, en l'occurrence, dans ces assemblées.
Et moi, je me suis toujours dit qu'un jour, je ferai partie de ceux qui instaureront une démocratie en France.
D'accord, oui. Ben,
j'ai envie de ça.
Je le souhaite aussi.
Surtout que tout est bloqué.
Oui.
Tout est bloqué. C'est-à-dire, tous vos candidats seront plus ou moins issus d'équipes et travailleront avec des équipes incroyablement jacobines.
incroyablement. Oui, mais c'est pire que ça. Il y a un État dans l'État, par exemple. Oui. Tout le monde sait que Bercy fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, si des lois d'un président régulièrement élu, d'une assemblée régulièrement élue, etc., ne plaisent pas d'un ministre régulièrement désigné, ministre des Finances, ne plaisent pas à l'administration de Bercy, les contours ne fait que les décrets d'application ne passent jamais. Parfois, il y a des exemples, j'avais entendu à la radio, qui faisaient exactement le contraire de ce pourquoi ils avaient été mandatés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un État dans l'État.
Ça, c'est monnaie courante.
Ouais, oui.
Mais tout le monde a vécu le traumatisme de 2005,
oui.
Où un grand peuple, qui est la France, les Français, votent.
Oui.
Tout ça, deux ans plus tard, donne le traité de Lisbonne, qui est absolument
annulé.
Et tout à coup, on annule la volonté populaire.
Oui, oui.
C'est juste intolérable.
Oui, c'est intolérable. Alors ça, qu'est-ce qui empêchera? Oui, c'est ça. Il y a eu cinq occasions. Il est arrivé cinq fois en Europe, que je crois deux fois au Danemark, une fois en Irlande, une fois aux Pays-Bas, une fois en France, donc. Qu'un référendum soit annulé parce que ça ne plaisait pas aux eurocrates. C'est évidemment quelque chose qui est inimaginable en Suisse.
Hein, inconcevable.
Le peuple s'appelle le souverain là-bas. C'est inconcevable. Mais qu'est-ce qui fera que...
Ce coup-ci, on va tenir.
Voilà, oui.
Le fait qu'on l'organise.
Oui.
C'est-à-dire que le fait que... c'est né du mouvement des gueux.
Oui.
Référendum citoyen.
Ah, c'est pour ça que j'étais les gueux, le retour.
C'est vraiment le retour.
Ils reviennent, ils ne sont pas contents. Oui.
Le mouvement des gueux s'est battu pour abroger les ZFE.
Oui.
On est devenu pugnace. Et je le suis devenu. Donc, à un moment, nous n'accepterons pas. Si nous représentons des millions de gens, on n'acceptera pas que le système se faufile.
Oui, d'ailleurs, je crois que sur les ZFE, c'est le Parlement qui a voté finalement pour l'abrogation.
Oui, oui. Et le Conseil constitutionnel est passé par derrière. Il y a eu neuf personnes qui ont donné une interprétation.
Oui, oui.
puisqu'aujourd'hui, la marge d'interprétation du Conseil constitutionnel, compte tenu du foutoir que représente le préambule de la Constitution...
Oui, c'est ça, oui, tout est là-dedans. Oui,
mais tout est là-dedans. Donc aujourd'hui, ces gens peuvent invalider...
On peut picorer ce qu'on veut là-dedans pour invalider ce qu'on veut.
Oui, et ils ont invalidé un travail parlementaire, une décision de l'ensemble du Parlement, soutenue par 80% d'un peuple.
De la population, oui, bien sûr.
Tout ça avec des arguties juridiques. Ouais. Alors qu'il s'agit quand même d'une loi de liberté publique.
Oui, bien sûr.
C'était quelque chose d'extraordinairement grave.
Ah, puis en plus, il s'agit de l'unité du territoire, d'une certaine façon. Voilà, on a le droit d'aller à trifouiller les oies, d'avoir le droit de venir dans un hôpital,
c'est la moindre des choses. Et puis, organiser la ségrégation au nom de bons sentiments, il y a quelque chose quand même d'incroyablement tordu. Donc, ce coup-ci, on se met aussi en ordre de bataille combative.
Oui.
Ça veut dire que toutes les troupes, tous les gens qui adhèrent au mouvement des gueux, c'est avec leur cotisation à 5-10 euros, d'abord qu'on finance tout ça.
Oui.
Donc ça vient du peuple, ça vient de la nation, qui se met en ordre de bataille pour offrir, c'est l'association des gueux qui soutient vraiment ça.
Oui.
Il y a une nouvelle...
C'est-à-dire qui paye chaque vote, c'est ça ? C'est chaque vote coûte 2 centimes,
c'est nous.
Je crois.
Oui, pour l'instant, c'est les gueux.
Oui, d'accord, c'est les gueux qui...
Alors après, on demandera à d'autres mouvements de nous aider, parce qu'on ne va pas pouvoir payer toute la démocratie française.
Bien sûr, oui.
Mais il y a une fierté dans notre mouvement.
Oui, oui.
Je suis très ému à chaque fois que quelqu'un dans la rue me dit « je suis gueuse ».
Je suis gueux.
Pourquoi ? Parce que ça veut dire « je contribue à une révolution de fond ».
Ah, je continue d'appeler cette émission le Libre Journal des Gueux à l'occasion. Donc voilà, Libre Journal des Économistes et des Gueux. Et des Gueux.
Et je suis très heureux que ce soit aussi la France Modeste qui finance ça.
Oui, bien sûr, oui, je comprends, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est bravo aussi à votre fils
à
Robinson Jardin, donc d'avoir fait baisser à ce point le coût du vote en le sécurisant aussi à ce niveau, etc. Sans encombrer les noms des votants dans des fichiers, etc.
Et bravo aussi à tous ceux qui collaborent avec lui.
Évidemment, oui.
Dans tous les pays. Il y a une société qui nous a donné beaucoup, beaucoup de codes, qui s'appelle Rarimo, qui est à Kiev. C'est un type qui est... ce sont des combattants de la liberté.
Et bien sûr.
Lui d'origine géorgienne, le patron. Et quand il parle de la démocratie française et de ce qu'il va pouvoir donner à la France, il y a quelque chose de magnifique.
Oui, oui.
Et ils sont tous incroyablement jeunes là-dedans.
D'accord. Mais il y a combien de personnes au total qui ont contribué à cette émission ? Je parle directement parce que le code, on en emprunte évidemment, mais enfin, des gens qui sont directement sur le projet, on va dire. Oui.
Je dirais d'abord tous les gens de Rarimo, tous les gens. Je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de très grands codeurs.
Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Et je vous dis, pour l'avoir testé pas plus tard qu'hier, j'aurais eu un peu honte d'arriver à cette émission.
Mais il y a très peu de gens dans
le monde essayé,
qui sont capables de
oui.
Les codeurs réellement qui maîtrisent les systèmes de blockchain.
La blockchain, ça, bien sûr.
C'est pas évident de trouver des gens.
Bien sûr.
Mon émotion, c'est quand on l'aura imposé en France.
Oui, oui.
Vous allez voir que ça a pullulé partout dans le monde.
Alors les auditeurs, n'hésitez pas, c'est historique, voilà. Ça va avoir
On va se conduire comme un grand peuple.
Un très grand impact, n'hésitez pas, vous aussi, vous prononcer sur toutes ces questions-là. La démocratie, oui, je disais, fonctionne bien à l'échelon local. Alors la France est gangrénée par une kyrielle d'intercommunalités absolument délirante. Historiquement d'ailleurs... tout a été fait pour ça. Enfin, les révolutionnaires ont déchiqueté les provinces en faisant des départements de peur que des barons et des marquis reviennent, etc. Enfin bref, donc voilà, tous les pays traditionnels de la France, le Perche, le Gâtinais, la Beauce, la Sologne, enfin je veux dire qui existe toujours dans la tête des gens, n'ont aucune réalité politique aujourd'hui. En revanche, existe. Noter ça dans un texte, en plus des cantons, circonscriptions législatives, arrondissements, départements, régions anciennes et nouvelles, etc., existe des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats intercommunaux à vocation unique, SIVU ou multiple SIVOM, établissements publics territoriaux, syndicats mixtes, pôles métropolitains, pôles d'équilibre territorial et rural. Voilà, donc c'est un bordel absolument monstrueux. Alors, ce truc-là est une confiscation, finalement, comme effet.
Très
c'est une confiscation démocratique totale. Total. Disons, c'est un niveau de corruption, d'ailleurs, qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que, et qui n'est même pas perçu comme tel. C'est-à-dire que les gens siègent dans ces assemblées, touchent de l'argent, etc. Enfin bref, décident, emmerdent le monde concrètement. Enfin, je veux dire, on retarde tous les projets, etc. Enfin, c'est Guillaume Poitrinal qui expliquait que en France, pour la construction d'un immeuble, il devait passer par 7 différents organisations publiques.
Les normes,
et chacune pouvait dire non. L'énorme
effort de simplification de notre appareil public, ça sera imposé par le citoyen. D'abord parce que ça nous ruine.
Oui.
Donc ça, ce seront des décisions que nous, Français, prendrons.
D'accord. Mais moi, je vais proposer un truc là sur votre appli, sur le retour aux provinces d'Ancien Régime et sur les pays traditionnels de la France, la Sologne.
Rebâtir des vraies provinces.
Voilà. Ouais, oui. Et supprimer tout le reste, surtout foutre en l'air tout, enfin garder les communes évidemment, les communes, la nation.
Les communes, les provinces,
les communes, la nation, ça n'y a pas de doute. Mais sinon, voilà.
Et un État simplifié puisque les pays traditionnels gèrent l'essentiel.
Voilà, c'est ça. Que les choses se fassent localement et qu'elles puissent se faire.
Il y a une très grosse équipe qui travaille dessus.
Oui, oui. Ah oui.
C'est dans l'étude, on en parlera, mais
ouais, très bien, ouais.
il y a déjà beaucoup de monde qui travaille là-dessus.
Ah, super, ouais.
Avec à la clé des économies considérables qu'on pourrait rendre sur le salaire net.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça représente que 19% de la dépense publique, hein, ce que notre auditeur n'aimait pas qu'on appelle le territorial, disons, comment est-ce qu'on appelle ça, les territoires, etc. Oui. Ça intègre tout ce que je viens de citer. Ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des territoires. C'est parce qu'il y en a tellement.
Il y en a tellement qu'on ne sait plus comment les nommer.
Voilà, on ne peut pas les nommer autrement que les territoires. Disons. En revanche, la ruralité, il a raison, on peut parler de la campagne, mais plus simplement. Et donc, oui, c'est un énorme souci, disons, cette multiplicité de niveau, oui. Enfin, la France s'y perd complètement.
Mais vous voyez bien que si on compte sur la classe politique pour faire le boulot, il le fera jamais.
Ah, ça ne sera jamais fait, bien sûr. Oui,
jamais.
Bien sûr,
oui. Donc ça doit venir de nous.
Oui, oui.
De nous.
Non, mais d'accord. J'ai hâte de pouvoir voter sur cette question-là et d'en parler à nos auditeurs, parce que voilà, c'est ensuite les débats. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi que les débats, plus vous aurez de personnes qui ont téléchargé cette application, plus les débats pourront se faire à la télé, à la radio, etc. Oui, en appelant les gens à se prononcer, à dire, enfin voilà, jusqu'à ce que leur nombre soit tel que le politique ne pourra plus les ignorer et sera condamné, disons, soit à faire des propositions, soit organiser un référendum et éventuellement être battu.
Hein,
enfin, pas seulement, mais comme vous dites, les gens deviendront plus raisonnables aussi. C'est-à-dire, si on est battu d'avance, on n'y va pas. Enfin, hein, on réfléchit un petit peu.
Une grande partie du niveau de vie suisse tient à son système politique.
Oui.
Puisque c'est un système qui digère réellement, qui réfléchit. Il y a beaucoup de réflexions collectives.
Oui, oui.
Mais il tranche pour de vrai. Et quand la démocratie a tranché quelque chose en Suisse, c'est vraiment exécutoire.
Alors notre ami Nicolas Jutze, suisse, qui a écrit le livre « La Suisse n'existe plus », évidemment, nous disait ici même que hélas, l'esprit milicien, que l'esprit démocratique s'est moussé, que peu à peu le fédéralisme gagnait du terrain. Alors évidemment, ils sont encore très très...
ils sont quand même très loin devant nous.
Très loin devant nous, voilà, c'est ça.
Mais ce que j'espère...
La situation qui désespère Nicolas Jutze, évidemment, ferait rêver tous les Français un peu démocrates. Voilà, bien sûr, mais bon, voilà, c'est aussi une propension naturelle, hélas,
que notre réveil démocratique français leur fera du bien.
Oui, non, bien sûr. Pour l'instant, on n'en est pas à donner des leçons en Suisse.
Non, pour l'instant, on
va attendre un moment. Voilà, on va d'abord essayer de se concentrer sur la France et sur d'autres de nombreux pays que vous citiez, dans lesquels des codeurs participent activement, sans doute en espérant que très bientôt ils pourront eux aussi se manifester. Se manifester très pacifiquement et faire...
Et ça refait de l'unité nationale.
Oui, oui.
Ça refait une nation.
Oui, bien sûr, non, tout à fait. Oui,
la dispute démocratique profonde, tranchée par celui qui, ou celle qui doit vivre avec la décision, ça change absolument tout. Il y a un nombre de
Bien sûr, bien sûr. Mais là, une fois de plus, il y a des biais. Je les dénonce souvent dans cette émission. La péréquation en est un autre. C'est-à-dire que à partir du moment, moi, je milite pour que l'argent collecté ici soit dépensé ici par des élus d'ici, contrôlé par des gens d'ici. Hein, c'est-à-dire tout simplement, voilà, c'est l'argent de la commune.
Le bureaucrate parisien considère que vous êtes un mécréant.
Non, bien sûr, François Goulard expliquait, il était président de la région de Normandie, il expliquait qu'il y avait déjà quatre systèmes de péréquation entre les régions, et donc il se retrouvait à devoir subir les malversations et la mauvaise gestion de sa région voisine, etc. Enfin, bref, il y avait quatre systèmes de péréquation, et il y en avait un cinquième qui était en route, donc voilà, qui s'ajoutait aux quatre autres. Uniquement entre les régions. Hein, la péréquation, elle est partout en France, pour que précisément ce soit jamais l'argent d'ici qui soit dépensé ici et qui soit jamais contrôlé par les gens d'ici sur les élus d'ici. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça l'idée.
Typiquement, un débat référendaire.
Absolument.
Typiquement.
Oui, voilà. Supprimons la péréquation.
Mais.
Les péréquations.
Je ne sais pas que. Je suis moins catégorique que vous, mais là où je suis catégorique, c'est que pour l'instant, qui décide ? La bureaucratie.
Oui, bien sûr.
Et non pas la démocratie.
Qu'une province aide un canton avec son argent, je peux le comprendre, qu'un canton aide une commune avec son argent, qu'une commune aide des gens avec son argent, etc. Ces choses-là ne me choquent pas. Ce qui me choque, c'est la péréquation automatique, c'est-à-dire le fait que l'argent rentre dans... On ne sait pas par quel trou, mais sort par... On ne sait pas quel autre. C'est délirant. Oui.
Moi, ce qui me paraît délirant, c'est que le décisionnaire ne soit pas élu.
Oui, bien sûr. Oui,
Le décisionnaire, c'est la bureaucratie.
C'est ça, bien sûr. Commissions dont je parle tout à l'heure, toutes ces communautés de communes, etc., toutes ces intercommunalités, comme on les appelle, sont des bureaucraties qui n'ont pas été élues. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont nommés par les mairies pour représenter aussi VOM ou aussi VU, etc. Ça, c'est terrible. Nous arrivons au terme de cette émission. Je redis le nom de l'émission, enfin le thème de l'émission était la démocratie entrera-t-elle par la fenêtre. La fenêtre, en l'occurrence, c'est l'application référendum citoyen gratuite. Hein, ça ne rapporte rien à Alexandre Jardin.
C'est en
source ouverte, comme on dit. Je remercie Alexandre Jardin, nos auditeurs qui nous ont posé de nombreuses questions. Je remercie Benoît à la réalisation, je remercie Jean-Loup et tous les bénévoles de Radio Courtoisie, je remercie le secrétariat de Radio Courtoisie, et je vous donne rendez-vous pour le 5 août pour une nouvelle émission, et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le libre journal des économistes créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 8 juillet 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.